Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron à Gao, sans passer par Bamako, quelle lecture faites-vous de ce déplacement?
C'est vraiment pour aller à Gao rencontrer les militaires français et je pense que ça fait partie aussi politiquement d'une pression sur le président Ibrahim Boubacar qui est là. Et on l'a bien vu parce qu'il y a eu un certain nombre de déclarations ensuite d'Emmanuel Macron en disant qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est pas une humiliation, le mot serait un peu fort, mais c'est quand même une pression, disons, sur le gouvernement malien, c'est évident.
Pression sur Ibeka, mais pression aussi sur les mouvements rebelles ou les ex-mouvements rebelles.
Le président Macron a été briefé sur le fait que finalement l'opération Barkhane et les interventions militaires françaises arrivent au bout, sont un peu maintenant hors sol par rapport aux réalités du terrain et à la poursuite de l'ensemble des attentats, des mouvements djihadistes dans la région qui sont vraiment dans le Sahel comme chez eux. Et je pense qu'il a compris que c'était pas possible de continuer en l'état ces opérations militaires s'il n'y avait pas un relais non seulement politique, diplomatique, et comme il le dit lui-même, un investissement réel de tous les pays concernés, sinon ça n'a aucun sens.
Alors Emmanuel Macron n'a pas hésité à mi-mot, mais tout le monde a compris, a affirmé qu'Alger, Bouteflika, était en quelque sorte un frein à ce processus d'Alger, ce processus de paix, en protégeant en quelque sorte le leader Yagh Haghrali.
C'est ce que lui ont fait remonter les militaires français, parce que c'est vrai que Yagh Haghrali a fédéré l'ensemble d'un certain nombre de mouvements, donc non seulement en tant que chef Touareg, mais également avec les chefs de libération du Massina, les Peuls, plus l'ensemble de la région. On sent un certain agacement du côté français, et c'est ce qui a été relayé par Emmanuel Macron en disant il faut que tous les pays dans la région prennent leurs responsabilités. Et c'est à l'évidence, en téléphonant au président Bouteflika, c'était le message en disant l'accord d'Alger de mai-juin 2015 n'avance absolument pas. Est-ce que finalement les Algériens ont vraiment envie qu'il y ait la paix au nord du Mali? On voit bien qu'un certain nombre de Maliens proposent une négociation avec Yagh Haghrali. Donc on arrive dans une sorte de corner pour les militaires français, encore une fois, qui l'opération Barkhane va paraître totalement hors sol par rapport aux réalités du terrain politique avec les voisins, les pays concernés, qu'on n'entend pas. C'est-à-dire, moi, j'étais vraiment surpris de voir que Emmanuel Macron arrive avec une pression extrêmement forte sur les pays de la région, non seulement le Mali, mais l'ensemble du pays du G5 Sahel, et s'adresse directement à l'Algérie comme étant quasiment partie prenante dans cette affaire. Et il n'y a pas de retour, on n'entend rien du côté des pays concernés.
La critique à l'égard d'Alger, est-ce que c'est un couac diplomatique?
Je pense qu'Emmanuel Macron mesure très bien quand il s'adresse à Alger. Il a toujours eu des très bonnes relations avec l'Algérie. Il croit être en position de force vis-à-vis de l'Algérie et pouvoir s'adresser de cette façon-là à l'Algérie. Bon, on sait bien que ça reste extrêmement compliqué dans cette région. L'Algérie, pendant des années, ont toujours considéré que toute cette partie de cette zone sahélienne faisait partie de sa profondeur stratégique, en particulier de l'armée algérienne. Il ne supportait pas de voir des Français dans la région, compte tenu aussi des attentats islamistes chez eux. Ils ont changé un peu sur ce plan-là. Ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas intervenir chez le voisin, mais à l'évidence, je pense que ça n'a pas dû vraiment plaire à Alger qu'on s'adresse de cette façon directement aux autorités algériennes. Emmanuel Macron sous-estime peut-être les réalités un petit peu de toute cette région, mais en même temps, à mon avis, on était quand même beaucoup plus à Gao dans du franco-français. Et c'était une façon de dire, je n'autoriserai pas les pays de la région à mettre en danger la vie des soldats français. C'était un message beaucoup plus destiné à Paris qu'un message destiné réellement aux pays concernés.
Alors vous dites du franco-français, mais Emmanuel Macron veut embarquer l'Europe sur le terrain militaire au Sahel. Peut-il réussir? Alors bien sûr, il y a l'axe Paris-Berlin.
C'est très important. Je pense qu'on sous-estime à quel point Emmanuel Macron peut réussir à entraîner quand même les Allemands dans finalement les opérations de maintien extérieur, même de la France. François Hollande n'a jamais réussi à faire payer les Allemands pour les opérations de maintien extérieur de la France qui se font officiellement pour l'ensemble de la protection d'Europe. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, ne serait-ce que sur le plan du financement. À mon avis, c'est ce que cherche Emmanuel Macron, c'est faire payer les Allemands pour les opérations extérieures de la France dans le Sahel. C'est ce que n'a pas réussi à obtenir François Hollande. Et je pense qu'Emmanuel Macron peut-être lui réussir finalement à faire payer les Allemands pour cette présence militaire française en Afrique.
Alors vous qui avez écrit « Ces messieurs d'Afrique », diriez-vous que la page de Jacques Faucard, le grand sorcier blanc, de Jean-Christophe Mitterrand, Papa Madi est tournée, hier sous François Hollande, Thomas Mélogneau, aujourd'hui Franck Paris?
On n'est plus comme du temps de la guerre froide avec un contrôle total politique, militaire, financier de ce qu'on appelait la France-Afrique. Mais je fais confiance finalement à ces réseaux d'influence africains. Ils savent toujours trouver quand même les petites portes. Même sous Emmanuel Macron, ils les trouveront, ils rentreront par derrière l'Élysée. Il ne faut pas non plus se leurrer, ils savent faire.
Antoine Glaser, merci.